20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il sera question de transmission, de partage ce soir, puisque nous nous intéresserons à la programmation solidaire du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, celle qui se tient en dehors des grandes salles et s'adresse à ceux qui ne les fréquentent pas, justement. Nos invités, Dominique Bluzet, le co-directeur du festival avec Renaud Capuçon, et Cécile Grassi, altiste du quatuor Psophos. Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra ensuite, comme tous les mardis, pour nous dresser le portrait de la jeune violoniste Clémence de Forceville, qui viendra, à l'occasion du festival, partager son art avec des élèves du Conservatoire d'Aix. Solidarité et partage, telles sont les valeurs que revendique le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec celle de l'excellence, bien entendu. Depuis plus de 10 ans, la manifestation n'a cessé de développer des actions en faveur de ceux que l'on appelle les publics empêchés ou éloignés, à travers des retransmissions de concerts dans des centres de soins palliatifs, des concerts gratuits pour les Aixois, des actions pédagogiques auprès du jeune public, et bien d'autres démarches appelées à se renforcer, car cette nouvelle édition du festival, qui se tiendra du 22 mars au 7 avril, touchera un public encore plus large et diversifié. C'est en tout cas l'ambition de son directeur exécutif, Dominique Bluzet, qui est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Musique et partage, c'est une sorte d'extension du festival dorénavant, qui touche un autre public. Qu'est-ce qui le caractérise, ce public-là?
D'abord, je dirais qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu avant le Covid et après le Covid. Avant le Covid, l'idée était de se dire, on a un festival extraordinaire grâce à un mécène qui nous offre ce qu'on peut-être on ne pourrait pas avoir comme ça aussi facilement à Aix, en tout cas un tel concentré d'excellence. Comment le partager avec des gens qui venaient pas dans la salle de spectacle dans Aix? Au départ, l'idée a été vraiment d'en faire profiter les Aixois à travers des concerts dans la rue, des masterclass, de ce qu'on faisait dans les hôpitaux, etc., etc. Et puis après, il y a eu l'idée d'aller jouer en région. C'était juste au moment du Covid. Donc on a été, je me souviens, tout de suite après le Covid, à Embrun, dans la cathédrale d'Embrun, qui est une église merveilleuse. On a été dans des tas de villages du territoire de la région sud, avec l'aide de la région. Et puis, avec l'aide d'une de nos mécènes, Aline Fauriel d'Estezet, et avec le CIC, on a décidé de renforcer ça. Pourquoi? Parce qu'après le Covid, ce qui m'a enseigné principalement, c'est que on était dans une période, et je ne pense pas que ça changera, où mon métier devait évoluer. Faire venir les gens dans la salle n'était pas la seule finalité. Il fallait être capable d'offrir à la société une action déterminée pour se dire, si les gens viennent pas, on ira jusqu'à eux. Ce qu'on avait mis sur pied, ce festival en partage, c'était une sorte de vitrine de ce qu'on pouvait faire. Donc comment est-ce qu'on pouvait l'amplifier dans les années à venir jusqu'à ce qu'il soit, à partir de 2026, l'équivalent à peu près de la moitié du Festival de Pâques en termes de budget, d'action, de volume d'activité, etc., etc. Et donc, on va avoir cette montée en puissance d'un festival qui va avancer sur deux jambes, qui est à la fois un festival de l'excellence et un festival de l'excellence d'une solidarité exemplaire.
Ce qui vous conduit à investir d'autres lieux, de nouveaux territoires, des lieux atypiques, comme par exemple la friche de la Belle de Mai à Marseille. Je pense à un autre lieu que vous avez investi il y a 2 ans, c'était le Camp des Milles, où vous avez donné cet extraordinaire concert, le Quatuor pour la fin du temps, d'Olivier Messiaen. La musique habitait véritablement ce lieu, était en adéquation avec l'esprit, avec l'identité de ce lieu. Quand vous investissez des nouveaux lieux, Dominique Bluzet, vous pensez justement aussi à développer un projet qui permet de mettre en valeur l'identité de ce lieu?
Oui, alors en plus, le Camp des Milles, ça correspond à quelque chose de très important pour moi. Quand on a commencé à travailler sur la création du Festival de Pâques avec Renaud, c'était, pour moi, faire un festival à Pâques avait un sens. C'est la mort et la résurrection, cet espoir de la vie. Je crois qu'il y a une relation très forte entre l'artiste et le sacré, entre aussi le spectateur et le divin. Et et l'œuvre de Messiaen dans ce camp-là, ça avait effectivement une signification particulière sur laquelle je veux travailler. Quand on sort de nos murs pour aller dans des lieux, c'est pas forcément pour parler du religieux, c'est pour toucher des gens qui n'ont pas l'habitude de venir jusque-là. Là, par exemple, aller dans les quartiers nord de Marseille, ces concerts-là, ils ont une particularité, c'est qu'on les fait avec des associations du style Athénée Carmonde, la Fondation Abbé Pierre, etc., ou d'autres. Mais l'idée, c'est d'être un lien entre des gens qui pensent, comme le disait la philosophe italienne Belinda Cannon, que c'est pas fait pour eux, et une relation à la musique classique. Et là, ben, Renaud et David Frey vont aller, par exemple, à la Friche de la Belle de Mai. Ça avait quelque chose d'exemplaire que le co-directeur du Festival de Pâques y aille, avec un pianiste de sa génération qui s'investit à sa manière aussi beaucoup dans ce travail, aller à Marseille où il n'y a pas d'auditorium, il y a peu de réflexion sur la musique classique parce qu'il n'y a pas de lieu. Nous, on investit des lieux différents en se disant, ben voilà, notre territoire, il nous permet de partager ça avec Marseille. On va aller aussi au festival de Chaillol. Là-bas, il y a un travail formidable qui est fait par Michael Dion au quotidien. Et puis, demander à des grands artistes comme Elisabeth Leonskaya de se déplacer, d'aller là aussi vers des publics, le Quatuor Psophos et d'autres. L'idée, c'est de faire des concerts gratuits avec les plus grands artistes du monde. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'en pensent certains, on a de la chance d'être en France. C'est un des 4 pays au monde qui a encore une politique culturelle, avec la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Et je pense qu'on a une dette vis-à-vis de notre pays, de se dire comment est-ce qu'on essaye d'imaginer des choses pour que le plus grand nombre en profite. J'en avais assez d'entendre que 5% de la population va dans les salles de spectacle. Aujourd'hui, la culture, elle peut être offerte à tous, du moment que nous, dans notre rôle, on fait preuve d'imagination, de détermination, de volonté, de foi, pour se dire « allez, on va se battre pour aller là ».
De Bach par Renaud Capuçon et David Frey. Ils se produiront tous les deux en concert le 2 avril dans la Friche de la Belle de Mai à Marseille, à l'occasion de ce volet Musique en partage du Festival de Pâques que l'on évoque ce soir sur Radio Classique avec Dominique Bluzet. Donc un concert pour les associations, mais que tout le monde pourra vivre également sur notre antenne, puisqu'il sera capté par nos micros. Votre projet Musique en partage, Dominique Bluzet, il concerne les territoires, puisque vous allez vers ce public qui ne vient pas forcément en concert. Il concerne également la jeunesse. Alors la jeunesse, elle a toujours été présente au Festival de Pâques. On pense à cette série Génération at X qui nous a permis de découvrir et de voir grandir de merveilleux artistes. Ces masterclass publics que vous donnez depuis longtemps. Quelles sont les nouvelles actions que vous allez développer cette année pour le jeune, voire très très jeune public, hein?
Oui, même à zéro mois. Oui. Alors au départ, avec Renaud, il s'agissait des jeunes musiciens. Donc on a créé Génération at X. J'ai voulu aller plus loin dans l'idée que il fallait former les spectateurs dès le plus jeune âge. C'est un apprentissage, la culture. C'est un peu comme manger des légumes. Si vos parents vous ont pas donné le goût de la découverte du goût, est-ce que j'ai vraiment une passion réelle pour aller goûter des topinambours à 35 ans? La réponse est non. Si on a appris enfant, on va avoir le goût de découvrir. Pour l'art, le rapport à l'art, c'est pareil. Donc, on va travailler avec deux personnes formidables. Une jeune femme qui s'appelle Solène Loi. Et puis quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelle Thierry Weber, qui est professeur de médiation à l'École des hautes études musicales de Lausanne. Avec eux, on va partir, mais alors quand je dis de zéro, moi c'est ça, c'est-à-dire on va faire des concerts en landau, on amène des enfants en landau sur un plateau, puis on leur fait un petit concert. L'idée c'est, disons, de 0 à 14 ans, de faire une école du spectateur et une école de l'audition. Il s'agit pas d'en faire des musiciens, il s'agit de leur apprendre le bonheur que c'est d'écouter de la musique classique, comment apprendre aussi à être capable de fermer les yeux et de se laisser entraîner par la musique, comment est-ce qu'elle est un appel au rêve, au songe. Moi qui viens du monde du théâtre, quand vous êtes dans une salle de théâtre, vous pouvez pas fermer les yeux. L'avantage de la musique classique, c'est que si vous n'êtes pas un spécialiste ou si vous n'avez pas une connaissance musicale particulière, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser entraîner dans la propre histoire que vous allez inventer par rapport à la musique. Elle est un fleuve qui nous emmène vers des destinations inconnues et apprendre à naviguer sur notre âme grâce à la musique, c'est quelque chose qui me semble essentiel.
Et c'est dans cette même idée, cette même démarche que vous avez commandé un spectacle original autour de Mozart, sur le principe même d'une émission radiophonique qui sera donnée par Anna Sigalevitch et Célimène Daudet. L'idée est de faire découvrir sous un autre angle la musique de Mozart.
De Mozart, et puis il y en aura d'autres. Moi, ça vient de... Quand j'étais petit, mon père m'achetait aux éditions du Petit Ménestrel, Mozart raconté aux enfants avec la voix de Gérard Philippe. Il y a eu aussi Galabru, qui a fait Bach ou Beethoven. Il y a eu un Vivaldi. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, je voulais déjà reprendre cette idée de l'histoire racontée. Anna, c'est une formidable raconteuse d'histoire, elle est journaliste, elle est comédienne et elle nous fait chaque année les petites pastilles du Festival de Pâques, les petites pastilles vidéo qu'on diffuse aux spectateurs avant le concert. Et puis Célimène, j'aime beaucoup cette pianiste que je trouve être aussi, à côté de la pianiste, une femme remarquable. Elle est originaire d'Haïti, elle a acheté un Steinway de concert et elle l'a amené à Haïti. C'est le seul piano de concert qu'il y a à Haïti. Elle a créé un petit festival de piano là-bas, dans un monde qui est en plein chaos. Et j'ai eu envie de réunir ces deux femmes qui ne se connaissaient pas. Je les ai réunies, je leur dis voilà, on va faire quelque chose pour ça. Et j'espère qu'après, on pourra faire une collection.
Voilà, et puis la musique en partage, c'est aussi un partage de l'intérieur, c'est aussi vivre la musique en tant qu'interprète, en tant qu'amateur, c'est la chanter, c'est ce que vous avez imaginé autour du Messie de Handel, une œuvre qui possède d'ailleurs une tradition d'interprétation participative, notamment en Angleterre.
Oui, c'est quelque chose, là aussi, on voulait aller à Marseille avec quelque chose qui ressemble à Marseille. À Marseille, il y a quelque chose, c'est la chanson. Autant la musique classique fait partie de l'ADN d'Aix-en-Provence, autant chanter fait partie de l'ADN de Marseille. Et donc on s'est demandé comment on pourrait trouver une œuvre qui fasse chanter les gens ensemble. Et alors, ça c'était l'œuvre rêvée. Là aussi, c'est une autre facette. On s'occupe des jeunes, on fait ceci, mais s'occuper du vivre ensemble des gens, je crois que vraiment, c'est la mission essentielle du spectacle vivant. Faire éprouver à des gens des émotions en commun, quand vous réunissez les gens dans des salles de spectacle, etc. On est un des derniers lieux. Avant, il y avait l'église qui faisait ça. Il y avait les grands meetings politiques, d'une certaine manière, qui permettaient aux gens d'éprouver une grande sensation politique ensemble. Celle du spectacle vivant, elle est à part. Elle est basée sur le bonheur et sur le bonheur d'être ensemble. Et je crois que ce Messie, à la fois dans ce qu'est le Festival de Pâques, dans sa relation au sacré, dans sa relation à l'individu, c'est quelque chose d'essentiel.
Voilà, ce Messie, version participative, ce sera donc le 23 mars à Marseille, l'un des moments forts du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, de cette déclinaison musique en partage, d'autres événements, d'autres rencontres avec de très nombreux artistes.
Si je peux me permettre, il y a quand même un endroit où on partage beaucoup avec le public, c'est avec vous. Parce que Radio Classique, s'il y a bien une idée maîtresse du Festival en partage, c'est comment est-ce qu'on va partager avec des dizaines de milliers de gens chaque année, et depuis le temps qu'on le fait, ça fait des centaines de milliers, peut-être un million de personnes qui auront partagé le Festival de Pâques grâce à vous avec nous. Pour moi, c'est très important ce volet qu'on a dans l'histoire qu'on raconte ensemble. Je rencontre des gens qui me disent qu'ils suivent la vie du Festival de Pâques depuis le mois de janvier-février, parce qu'il y a une série d'émissions, de choses comme ça, et que le festival, c'est l'apothéose. Ils n'iront jamais au Festival de Pâques à Aix-en-Provence. Pourtant, ils l'ont partagé grâce à vous. Et encore une fois, ça se chiffre aujourd'hui en centaines de milliers de personnes qu'on a touchées grâce à ça. Et alors ça, s'il y a un outil du partage, pour nous, c'est bien Radio Classique.
On y sera avec le même enthousiasme, le même bonheur cette année encore. Rendez-vous du 22 mars au 7 avril. Merci beaucoup Dominique Bluzet et à très bientôt à Pâques.
Merci à vous.
À très bientôt à Aix.
Exactement.
The joy is born, the blessed joy.
For unto us a child is born, l'un des célèbres chœurs du Messie de Handel par le chœur Accentus et le Concerto Köln, sous la direction de Laurence Equilbé. Laurence Equilbé qui dirigera le Messie le 1er avril au Grand Théâtre de Provence, une œuvre programmée également dans le cadre du volet Musique en partage au Festival de Pâques. En version participative, ce sera le 23 mars à Marseille.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Parmi les artistes engagés dans ce volet musique en partage du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence figurent les musiciens du quatuor Psophos qui, outre un concert le 4 avril au Conservatoire Darius Milhaud, participeront à différentes actions culturelles dans la région. Bonsoir Cécile Grassi.
Bonsoir.
Vous êtes donc altiste du quatuor Psophos, un quatuor qui a toujours été très engagé dans le domaine social vers ce public éloigné, ce public empêché.
Oui, c'est sûr que le quatuor se prête particulièrement bien, vu sa taille, à l'itinérance. Donc on a toujours voulu aller vers notre public parce qu'il nous semble essentiel, surtout maintenant, de laisser personne sur le chemin. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire.
Alors est-ce que vous pourriez nous éclairer justement sur votre résidence dans les Hautes-Alpes qui se tiendra fin mars? Ce sont des concerts gratuits mais également des masterclass et d'autres actions?
Oui, tout à fait. Ça a été pensé en collaboration avec l'espace culturel de Chaillol, qui tient vraiment beaucoup à relier toute la région avec la culture. Nous allons commencer par faire des médiations dans des collèges, ainsi qu'au conservatoire de Gap, pour aller à la rencontre des collégiens, afin de leur présenter le quatuor et les œuvres que nous allons jouer. Et on les retrouvera après dans les concerts, le soir, pour qu'ils aient en avant-première une explication, des clés, pour mieux comprendre ce que nous proposons au concert. On leur donne les explications, on leur montre les instruments, comment ils ont été fabriqués, un petit peu l'histoire aussi de la musique que nous allons jouer. Et en fait, en leur donnant des clés, ils sont beaucoup plus réceptifs qu'on ne pense et curieux. Et en fait, c'est juste aller vers les autres qui fait que la musique classique est accessible.
Est-ce que vous jouez les mêmes œuvres que celles que vous allez jouer, par exemple, au Conservatoire Darius Milhaud, avec, entre autres, une œuvre d'aujourd'hui, une œuvre de Nicolas Bacri?
Oui, absolument. Ça a été voulu donc par Michael Dian, qui est le directeur de l'espace culturel de Chaillol, et il a bien raison. C'était que nous proposions le même programme que dans le Festival de Pâques. Car en fait, il n'y a pas deux publics pour moi, en tout cas, enfin, c'est notre conception dans le quatuor, que nous ayons une toute petite salle ou une très grande salle, nous allons faire la même chose avec la même qualité possible, le même engagement. Et effectivement, il y aura une œuvre donc contemporaine de Nicolas Bacri, avec qui nous travaillons depuis fort longtemps. Et c'est très très bien parce que ça va expliquer les deux volets aussi qui constituent notre travail de quatuor à cordes. C'est jouer des œuvres anciennes extraordinaires qui font partie du répertoire et faire vivre la musique contemporaine en partenariat avec le compositeur.
Quelques mots peut-être, Cécile Grassi, sur cette œuvre de Nicolas Bacri.
Tout à fait, c'est une commande en fait du Festival de Pâques qui normalement devait être programmée pour 2020 et qui a malheureusement subi les aléas de la pandémie. Il l'a donc composé en faisant une référence à un très grand compositeur qui est Beethoven, et particulièrement le Serioso, le 11e quatuor de Beethoven. Il en a fait une citation, les quatre premières notes, et là-dessus, il a écrit son quatuor, donc qui est en trois mouvements. Et nous avons déjà travaillé longuement avec Nicolas depuis des années. On a enregistré deux disques de ses quatuors. C'est très intéressant pour nous de pouvoir jouer cette œuvre, une nouvelle création de Nicolas, avec tout le bagage des quatuors que nous avons enregistrés dans le temps.
Voilà, et que vous mettrez en regard cette œuvre de Nicolas Bacri avec Schubert.
Tout à fait. Alors, on avait pensé effectivement à la mettre en regard avec Beethoven, qui aurait été effectivement logique avec le Serioso. Mais malheureusement, le Serioso est un des quatuors les plus courts qui existent. Il fait même pas 18-20 minutes. Et en fait, ça ne correspondait pas au format du concert. Donc, on a voulu, du coup, le mettre plutôt face à un autre génie pour mettre en valeur, justement, le côté tradition du quatuor et tout ce que ça inspire pour les compositeurs contemporains. Voilà, ça nous semblait mettre face à face deux pans d'histoire, un chef-d'œuvre et une magnifique création de Nicolas Bacri, qui est un compositeur très, très présent de nos jours.
Voilà, Schubert et Nicolas Bacri, que vous jouerez, Cécile Grassi, avec vos partenaires du Quatuor Psophos au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence pour un public diversifié à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Petit extrait du 8e Quatuor de Nicolas Bacri en hommage à Joseph Haydn, interprété par le Quatuor Psophos.
Nouvelle génération de Thierry Lhériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Arnaud.
Alors ce soir, une jeune violoniste qui, du haut de ses 33 ans, a déjà tout d'une grande.
Et oui, tout d'une grande et un sacré parcours. Lors ces dernières années, on l'a en effet vue officier en tant que super soliste de l'Orchestre de Chambre de Paris, sous le trop court mandat du regretté Lars Vogt. Mais elle fut aussi premier violon, invitée à l'Orchestre National de Lille ou encore à celui des Pays de la Loire et même co-soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, un palmarès qui ferait déjà plus d'un an vieux. Mais c'est désormais de l'autre côté du Léman que se joue la carrière de Clémence de Forcheville à l'Orchestre de Chambre de Lausanne, où elle a retrouvé en tant que directeur musical un certain Renaud Capuçon. Nommé premier violon solo de la phalange suisse en mars dernier, eh bien elle vient tout juste d'être confirmée dans ses fonctions de concertmeisterin au terme de sa période d'essai d'un an, titularisation qui a donc pris effet il y a quelques jours à peine.
Pour autant, l'horizon de la violoniste ne se limite pas au seul monde orchestral.
Non, loin de là, car c'est d'abord comme chambriste que l'on a découvert la jeune musicienne. Il y a quelques années de cela, c'était au sein d'un trio féminin qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, notamment pour son intégrale, toute de clarté, de poésie et d'expression chez Naïf, des trios de Beethoven, le trio Sora, un ensemble qu'elle avait rejoint quelques mois seulement avant le confinement, après une première expérience chambriste du Quatuor, juste à temps. Donc, pour participer à cet enregistrement, un trio qu'elle quitta néanmoins moins de 3 ans plus tard pour la chaise de super soliste de l'Orchestre de Chambre de Paris. Un saut dans le vide qui pour elle s'inscrivait davantage dans une forme de continuité que de rupture, car elle assure ce qu'elle recherche avant tout dans un orchestre de chambre, comme celui de Paris ou celui de Lausanne, et bien c'est la dimension organique du collectif, le sens de l'écoute, associé à la variété du répertoire, et puis bien sûr l'opportunité du jouer dirigé, c'est-à-dire pouvoir à l'occasion diriger l'orchestre depuis son violon, comme cela se fait de plus en plus souvent au sein des orchestres de chambre.
Autant d'aspects, Thierry, qu'elle s'efforcera de transmettre dans quelques semaines avec les élèves du Conservatoire d'Aix-en-Provence.
En effet, puisque la soliste de l'Orchestre de Chambre de Lausanne y animera, dans le cadre d'un festival en partage, cette volée de plus en plus vaste d'actions culturelles, sociales, pédagogiques du Festival de Pâques d'Aix, l'une de ses masterclass, dont la manifestation a le secret toujours de grande intimité et souvent même de complicité entre ces tout jeunes musiciens en herbe et leurs aînés, des moments qui, pour le public, qui y a accès gratuitement, rappelons-le, sont autant d'occasions de pénétrer à l'intérieur du laboratoire de l'interprète, comme de percer les secrets de la mécanique, parfois complexe, d'une œuvre.
Car ce souci de transmission anime Clémence de Forcheville depuis déjà quelques années.
Oui, elle assiste d'ailleurs depuis 3 ans maintenant Philippe Graffin en qualité de professeur de violon au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il faut dire qu'elle-même a débuté le violon très tôt, dès l'âge de 4 ans, et elle l'avoue, eh bien, elle n'a pas eu le coup de foudre tout de suite, c'est bien plus tard par l'intermédiaire de l'opéra, figurez-vous, et notamment de Mozart, dont elle tombe amoureuse de la flûte enchantée, et qui reste pour elle l'un de ses compositeurs favoris, qu'elle prendra conscience de son désir de devenir musicienne, et c'est c'est au CNSM de Paris où elle suivra l'enseignement d'Olivier Charlier, et bien que ce désir se mûra en évidence, une évidence qui transparaît aujourd'hui dans son jeu, que ce soit en qualité de soliste de l'Orchestre de Chambre de Lausanne ou bien en musique de chambre qu'elle continue de pratiquer assidûment. Elle le fera d'ailleurs à l'occasion du Festival de Pâques dans le cadre de la Carte Blanche à Gérard Cosset.
Quelques notes du troisième mouvement du trio L'Archiduc de Beethoven par le trio Sora, avec Clémence de Forceville donc au violon. Clémence de Forceville que l'on retrouvera au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence en concert et dans le cadre de Masterclass, puisqu'elle participera à ce volet.
Exactement.
Musique en partage. Merci beaucoup Thierry et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci à Yann Lovray pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Klaus Mäkelä, le chef de l'Orchestre de Paris, qui nous parlera de sa carte blanche au Louvre, de son nouvel enregistrement avec l'Orchestre de Paris et de leur grande tournée américaine qui se profile. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.